BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Alors, on est de retour pour la seconde partie de l'émission. Il est 10h passées de 2 minutes. Vous êtes toujours en direct sur BFM Business. C'est les experts. On débat autour de l'actualité économique du jour avec Guillaume Dard, président de Montpensier à Brevel, vice-président de l'Association française de gestion financière. Jean-Marc Daniel, éditorialiste à BFM Business. Et Gilbert Sette, professeur d'économie à Neoma Business School. Je voulais qu'on parle dépendance. On parlait retraite juste avant la coupure publicitaire et pouvoir d'achat. Là, je voulais qu'on parle dépendance. Avec cette proposition iconoclaste qui a le mérite de nourrir le débat de la Fédération hospitalière de France qui propose de financer la dépendance. Vous savez qu'on va avoir des besoins chiffrés en milliards d'euros hein, sur ce cinquième pilier de la Sécu qu'on a toujours du mal à voir émerger. Et ben comment le payer ? La FHF nous dit, allons voir du côté des droits de succession. Bah oui, vous savez qu'il y a cette grande transmission de patrimoine qui arrive entre 5 000 et 9 000 milliards d'euros de patrimoine. Alors, vont changer de main d'ici 2040.
La bonne nouvelle dans cette déclaration, c'est qu'ils ne disent pas qu'il faut augmenter les droits de succession. La mauvaise, c'est qu'effectivement, en lançant un débat comme ça, probablement, ça dérapera vers...
On voit le pactole qui pointe le bout de son nez, là.
Ce que dit la Fédération, c'est que le pactole, effectivement, il va être en volume, sans changer les taux de droits de succession, il y a beaucoup plus d'argent qui va rentrer dans les caisses de l'État pour les droits de succession. Et donc, la logique, si j'ai bien lu leur communiqué et les interviews, c'est qu'ils disent qu'il faut flécher. Il faut flécher. Et donc, d'ailleurs, en termes de conception, c'est pas anormal. C'est ce que font d'abord les gens individuellement. Les gens individuellement, ils vont consommer leur patrimoine dans leurs dernières années, si vous voulez. Que ce soit pour payer une EHPAD ou pour payer des gardes à la maison, ceux qui peuvent le faire vont consommer leur patrimoine. Après, il y a ceux qui n'ont pas de patrimoine et qui sont aidés globalement par la solidarité nationale. Et ce que je comprends de ce texte, c'est de dire il faut que l'État flèche pour la sécurité sociale une part.
Et encore, il parle on cherche 10 milliards hein, pour le financement de la dépendance.
Mais ce que j'ai lu, c'est qu'il ne parlait pour commencer que d'un milliard. Mais donc, je trouve que c'est une bonne idée. Si on dit à l'État, grosso modo, vous allez encaisser davantage de droits de succession sous réserve que vous ne les montiez pas trop, parce qu'à ce moment-là, comme toujours, l'assiette taxable baissera, eh bien, c'est une bonne idée, au fond, générationnellement. Et alors là, justement, on n'est pas dans le choix c'est un choix gérontocratique, mais enfin, où on dit aux gens, c'est votre argent qui...
Nécessité de s'adapter aussi à l'évolution démographique du pays.
Voilà, et donc, de ce point de vue-là, dans la mesure où il précise qu'il ne faut pas augmenter les droits de succession, c'est une bonne idée.
Gilbert.
Oui, c'est un débat qui est intéressant. Dans une approche très très simpliste, économique très très simpliste du cycle de vie, on considère que les gens finissent leur vie avec un patrimoine nul et ont consommé effectivement à la fin de leur vie l'intégralité de leur patrimoine. C'est pas vérifié. C'est pas vérifié dans les chiffres. Et il y a beaucoup de travaux hein, sur cette question-là. Et c'est pas vérifié dans les chiffres pour des raisons très simples. D'abord, les gens prennent du plaisir à transmettre. Ah, et oui. Puis, c'est ce qui est quand même une raison de disparaître avec un certain patrimoine. Et puis, l'autre élément fondamental, c'est que personne ne connaît, heureusement, avec certitude, le moment de sa disparition. Et donc, évaluer ou être à ce point optimisateur qu'on finit sa vie avec un patrimoine nul est quelque chose qui n'est pas vérifié. Fort heureusement, parce que ça signifierait que chacun d'entre nous connaît à la seconde près le moment de...
Ce n'est pas tout à fait le cas.
Le moment de sa disparition, ce qui n'est pas le cas. Donc, l'idée qu'il y ait une contribution qui, d'une façon ou d'une autre, réintroduise cette logique compte tenu de l'incertitude que chacun d'entre nous vivons sur la durée de notre vie, c'est pas totalement absurde. Maintenant, il faut que le débat, évidemment, se fasse d'une façon sereine, détendue, et on sait que en France, comme dans tous les autres pays, l'impôt sur la succession est l'impôt le plus impopulaire. Le plus impopulaire.
Oui.
On l'appelle l'impôt sur la mort. Sachant que pour l'instant, les droits de mutation à titre gratuit, c'est pas grand chose.
Oui.
Au niveau national. Faut rappeler, ça doit être 22 milliards, quelque chose comme ça. C'est quelque chose de très faible par rapport à d'autres sources de recettes fiscales. Donc c'est très faible et pourtant, dans le débat public, et je dirais pas dans l'inconscient collectif,
inégal,
mais dans la psychologie de chacun, c'est considéré comme quelque chose d'absolument horrible, alors que la majorité, sinon,
sont exonérés.
Sont totalement exonérés de ce droit.
C'est ça qui est étonnant, Jean-Marc Daniel. C'est-à-dire que même les plus petits patrimoines sont contre une taxation
qui les concerne pas.
Qui ne les concerne absolument pas, alors que vous êtes la référence libérale de ce plateau, Jean-Marc Daniel. Si on cherche l'équité des redistributions et l'égalité réelle des chances au départ de la vie, finalement, la seule chose qui pourrait être justement taxée, c'est le patrimoine, non ?
Alors non, parce que je pense qu'effectivement, l'impôt sur le patrimoine est une... Alors, ça fait l'objet de beaucoup de recherches.
Oui.
Et donc, vous avez d'abord ceux qui expliquent quand même que l'impôt sur le patrimoine, ça a du sens si le patrimoine existe, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire l'impôt sur la terre, elle sera toujours là. En revanche, si vous mettez un impôt sur le patrimoine, sur l'outil de production, il y a des gens qui vont dire je ne vais pas créer cet outil de production pour ne pas avoir à payer d'impôts. Donc le aussi bien que ce soit les physiocrates jusqu'à Maurice Allais, tout le monde disait ça dépend du type de patrimoine que vous taxez. Ah. La deuxième remarque que je ferai, c'est effectivement, Gilbert l'a rappelé, c'est-à-dire que c'est 21 milliards, 18 milliards d'impôts sur des successions purement stricto sensu et 3 milliards sur les mutations, les donations. Et si vous regardez effectivement ces 18 milliards, vous apercevez que de plus en plus, c'est de nouveau des boomers qui les paient. Parce que celui qui hérite maintenant, c'est quelqu'un qui va...
Parce que les transmissions se font au-delà de 60 ans.
Voilà, parce que celui qui hérite maintenant, il a entre 55 et 60 ans.
Ben oui.
Et donc, et progressivement, au fur et à mesure que le temps passe, c'est de plus en plus un transfert de retraité à retraité.
Oui.
Donc, la question que l'on doit se poser...
Beaucoup de gens le transfèrent à la génération d'après.
Voilà. Le véritable enjeu, c'est qu'est-ce qu'on peut pas alléger...
La circulation du capital.
Faire la circulation du capital, faire en sorte que, effectivement, aux États-Unis, par exemple, vous avez le choix de choisir vos héritiers. Vous n'avez pas forcément un héritage qui va immédiatement dans votre famille. Et donc, vous avez une réflexion à avoir sur le transfert intergénérationnel, sur le fait que effectivement, c'est vrai que les gens qui rentrent à la retraite très tôt pourraient continuer à travailler un peu plus, ce qui leur permettrait de payer les droits de succession. On en revient au point précédent. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un enjeu de réflexion sur cette automaticité dans la transmission vers la famille. Et la troisième remarque que je ferais, c'est qu'il faut préserver l'outil de production. Je pense que le Dutreil est quelque chose d'absolument
qui a été menacé dernier projet de loi de finances.
Il faut le garder et il faut penser à cette idée que si vous n'avez pas les moyens de payer vos droits de succession, vous allez être obligé de vendre votre patrimoine. La question qui se pose, c'est qui va l'acheter ?
Et oui.
C'est-à-dire que dans les évaluations, il y a un certain nombre de gens qui disent qu'il y a toute une évaluation qui est artificielle parce que l'immobilier tel qu'il est valorisé dans ces calculs et n'a pas la véritable valeur marchande. C'est-à-dire c'est la distinction entre la valeur d'échange et la valeur d'usage. Quand on est dans un appartement, il y a une valeur d'usage qui est assez importante, et qu'on peut constater que la valeur d'échange est assez faible. Donc la réalité, là aussi, des espoirs en termes de recettes potentielles est peut-être appelée à être déçue. Ce que je dirais pour conclure, c'est que je pense qu'à partir de ce moment-là, il faut favoriser l'épargne, c'est-à-dire les gens qui vont acheter, il faut que pour acheter, ils aient dégagé de l'épargne.
Jean-Marc Daniel, contrairement au discours.
Voilà, et donc on en revient à ce discours éternel que je tiens chaque fois que j'ai un micro sur cette thème.
C'est la répétition est le premier pilier de la pédagogie, cher Jean-Marc.
Et épargner plus.
Bon, la question, c'est pas tant les droits de succession, si je vous comprends bien, que le droit des successions qu'il faut un peu revoir.
Oui, il faut un peu le faire bouger. Alors, le droit de succession, sans faire un grand cours, c'est qu'effectivement, la Révolution française a décidé que tout était partagé entre
dans la famille.
La réserve était au fond du nombre d'enfants, enfin de la différence, la division par le nombre d'enfants et une part qui pouvait être donnée à qui on voulait. Donc ça, c'était un changement de mentalité qui a provoqué le fait que les propriétés agricoles sont devenues plus petites en France par rapport à d'autres pays et ça a posé d'autres sujets. Mais c'est très dans la psyché française, c'est-à-dire que l'égalité, l'égalitarisme, etc., tout ça est très ancré, donc difficile de le bouger. Deuxièmement, il existe néanmoins déjà des possibilités de passer des choses à la génération suivante, ce qui est d'autant plus important quand il s'agit d'outils de travail.
Oui.
Troisièmement, je pense que Jean-Marc a, comme toujours, mais très bien fait, de souligner l'importance de l'outil de travail. On a trop vu dans cette France qui ne produit, paraît-il, maintenant plus que 37%, je ne sais pas si ce chiffre est juste, mais je l'ai lu cette semaine, 37% des biens qu'elle consomme sont produits sur notre pays. Donc, si on n'a pas d'entreprise, enfin, on ne va pas reparler des masques, enfin, tout ça, si on n'a pas un tissu industriel, et ce tissu industriel, il ne va pas se faire tout seul avec passage à chaque génération où vous vendez aux équipes parce que ce n'est pas si facile. Et enfin, la France a toujours tendance à considérer que le reste du monde, c'est un village Potemkin. Ça nous permet à 8 heures de regarder ce qui se passe, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce qui se passe ici. Et les droits de succession ailleurs, ils sont comment ? Raphaël.
Oui,
à part en Grande-Bretagne, où il y a actuellement un débat, puisqu'ils sont dans la même situation abominable, où on essaye de les remonter, partout ailleurs, ils sont entre 0 et quelques pourcents.
Donc inférieur, vous dites ?
Ah oui,
il y en a pas.
La France est avec la Belgique.
Ah ben moi, je l'avais dit.
Mais la France et la Belgique sont très largement au-dessus.
Il n'y a que nous. Alors, si le pari, c'est encore de faire qu'on n'ait pas de capital, enfin, qu'est-ce que c'est que la croissance ? C'est du capital, du travail, du produit, la combinaison des facteurs et donc de la technologie, de la productivité. On a encore de l'épargne. Si on veut aussi tout mettre dans le pot commun, ça va pas marcher.
Alors, en même temps, bon, je reviens au sujet de la dépendance, hein, pardon, mais...
Le raisonnement consistant à dire qu'ils sont plus élevés en France, c'est un raisonnement qu'on pourrait généraliser. L'imposition, l'imposition du capital est plus élevée en France, l'imposition du travail est plus élevée en France, l'imposition sur la succession est plus élevée en France. Il y a qu'une imposition qui est sans doute plus faible en France que dans très nombreux pays, c'est l'imposition sur la consommation.
Hein.
Il faut le dire et le répéter parce que les pays qui sont
C'est pas très populaire.
Il faut répéter ça en rajoutant que les pays qui sont les moins inégalitaires, m'entendez bien, les pays qui sont les moins inégalitaires, pays nordiques et scandinaves, ont souvent des taux normaux de TVA de 22, voire 25%. Donc, la TVA n'est pas le levier d'une augmentation, d'une amplification des inégalités, comme on l'entend très souvent. Donc, la France se caractérise par plus d'imposition sur les facteurs de production, plus d'imposition sur le capital via les successions aussi, et moins d'imposition sur la consommation. Donc, c'est une logique globale, en quelque sorte, de taux moyen, c'est-à-dire d'ampleur de l'imposition d'abord à laquelle il faut réfléchir, et qui est liée, je suis d'accord avec Jean-Marc, qui est liée à la quantité de travail. Hein. La France est dans le club des pays riches, on m'accorderait que je l'ai souvent répété, la France est un pays pauvre. C'est-à-dire que le produit intérieur brut par habitant de l'Allemagne, des pays nordiques, scandinaves, des pays
bas,
très largement supérieur au nôtre.
Inférieur pour la quatrième année.
Principalement parce que le taux d'emploi des jeunes, des peu qualifiés et des seniors est beaucoup plus bas en France que dans ces pays-là. Et puis, au-delà du taux de prélèvement moyen qui est lié au fait qu'effectivement notre PIB est faible par habitant comparé à ces autres pays, il faut réfléchir à la structure des prélèvements. À la structure des prélèvements, qui sans doute fait assez peu de cas des prélèvements sur la consommation et a trop d'ampleur sur les prélèvements sur les facteurs de production.
Gilbert Sedd propose d'augmenter la TVA et de passer les impôts sur les entreprises. Je vous propose de lancer
sur les entreprises et sur le travail. Et en répétant que les pays les moins inégalitaires, les moins inégalitaires, pays nordiques et scandinaves, ont des taux de prélèvement sur la consommation supérieurs aux nôtres.
Gilbert Sedd te rappelle parfaitement une pensée sage, très sage, mais on est dans cette phase de challenge des grands pays démocratiques, et le choix français depuis 30 ans, il est de privilégier la consommation, de permettre à ce que cette consommation soit la plus forte possible, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire que pour ça que la Chine...
Et qu'elle réussit aujourd'hui.
Les importations chinoises...
Puisqu'elle recule.
Qu'on n'a plus de production.
Oui.
Et dans ce contexte démocratique et de montée des populistes, il est sûr que personne ne le fera, cette augmentation de la TVA. Or, ce serait une des recettes de restabilisation, puisque, là je rejoins aussi Jean-Marc, on manque d'épargne. C'est-à-dire que quand on nous dit « Ah, il y a de l'épargne », l'épargne, elle est. S'il y en avait trop, c'est que simplement elle compense dans un effet ricardien l'énorme déficit gouvernemental. Mais au total, on est en position extérieure nette, négative. Oui. C'est-à-dire que la France doit plus au reste du monde qu'elle n'a de créances sur ce reste du monde. Et que tout ça va en même temps. On parlait de la dette, des taux. C'est cet appauvrissement dans des proportions incroyables du pays relatif, alors que les personnes, bien sûr, pas tout le monde individuellement, plein de gens sont des situations horribles et c'est terrible, ont quand même, sur 30 ans, c'est à peu près trois fois sur 40 ans. Il y a un très bon livre de Hippolyte Dalbis là qui est sorti. Je crois qu'on a triplé sur 40 ans à peu près le niveau 60, triplé le niveau de vie par habitant. Et qu'on arrive en fin de course avec un système qui ne fonctionne plus, pas assez de travail, pas assez de production, trop de dettes, et une promesse, évidemment, très difficile de dire il va y avoir. Mais en 60, je finis juste par là, sur la dernière crise de l'énergie, en 73, rapidement. On en a déjà parlé, Raphaël. Mais on réécoutait Messmer hier. Messmer a dit, les prix de l'énergie montent, on va se serrer la ceinture parce qu'il faut que le pays survive. Et personne ne peut aujourd'hui dire ça. Tout le débat est dans l'autre sens.
Oui, juste pour compléter ce qu'on vient de dire, et pour rebondir sur une remarque que nous avons faite off, je pense que un des enjeux, c'est aussi d'augmenter le prix du carbone. C'est-à-dire, je pense que plus que la TVA...
Alors, on a servi pour augmenter le prix du carbone.
Il faut augmenter augmenter le prix du carbone. Or, off, on constatait que les recettes fiscales liées à l'augmentation du prix du pétrole n'étaient pas au rendez-vous, contrairement à ce que racontent un certain nombre de membres de la classe politique, parce que le signal prix fonctionne si vous augmentez le prix de l'essence. La consommation baisse.
30% de baisse sur les 10 premiers jours du mois de mai de consommation des carburants.
Or, on a besoin de faire baisser cette consommation parce qu'il y a un enjeu qui est un enjeu climatique. Gilbert parlait des pays du Nord qui ont des taux TVA élevés, mais ils ont aussi une taxe carbone beaucoup plus élevée que la nôtre.
Et
donc, je pense que la vraie solution, c'est de faire comprendre là aussi à la population que l'enjeu énergétique et l'enjeu climatique ne sont pas à prendre à la légère et qu'il va falloir accepter de payer plus cher son essence.
La dernière fois, ça a créé la crise des Gilets jaunes.
On ne peut pas dire qu'on va saloper la planète à cause de la crise des Gilets jaunes. Non, il y a un moment où il faut apprendre ses responsabilités.
Allez, il est 10h passé de 19 minutes. Vous êtes toujours en direct sur BFM Business. Et les experts, je voulais qu'on termine en parlant quand même de cet accord signé enfin. Pourrait-on dire en Europe entre les eurodéputés et les États membres de l'UE, cet accord, l'accord commercial avec les États-Unis, l'accord de Turnberry. Vous vous souvenez l'année dernière, Ursula von der Leyen qui était dans la propriété de Donald Trump en Écosse en train de signer ses 15% de droits de douane pour l'ensemble de l'UE. Pourquoi on a mis tant de temps à signer ce Jean-Marc, je continue avec vous à signer cet accord? Ça fait 10 mois.
Oui, parce que vous savez, tout ce qui concerne autour du commerce international, du libre-échange, est devenu en Europe quelque chose qui est absolument épidermique. Les gens réagissent. En fait, il y a derrière ça, il y a trois éléments qui jouent. La première, c'est que certains observateurs ont la conviction que tous ces accords sont extrêmement fragiles parce que le Congrès des États-Unis n'a pas été consulté. Et donc, les droits de douane qui sont présentés par les Américains, par le gouvernement américain, n'ont absolument aucune légitimité et aucune valeur juridique. Donc, c'est pas la peine non plus de se précipiter. La deuxième, il y a une contestation de la façon dont s'est comportée la présidente de la Commission, dont on a considéré qu'elle était allée au-delà de ses pouvoirs, ce qui n'est pas le cas.
À juste titre ou pas ?
Non, c'est la Commission qui négocie les accords internationaux et qu'elle avait été maladroite dans sa présentation. Je suis moins critique parce que je pense qu'elle a compris que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Là aussi, on disait ça tout à l'heure off. Je pense que Madame von der Leyen a compris qu'avec Trump, ça marchait pas mal de jouer la soumission.
Nous sommes la région du monde qui avons écopé du taux le plus bas.
Et donc finalement, elle s'en est pas.
Beaucoup s'interrogent pour savoir comment on a fait.
Et la troisième remarque que je ferai qui n'a rien à voir avec le délai et tout ça, c'est quand même que il y a aussi la perception de plus en plus de gens qui fait que les produits européens sont des produits qui sont consommés par une certaine type de population aux États-Unis.
Plutôt élitiste.
Plutôt assez élitiste. C'est ce que dit Nicolas Gregory Mankiw, là, l'économiste assez célèbre, qui dit, les droits de douane de Trump, effectivement, s'il me concerne, concernant l'Europe. Parce que tous les soirs, je bois un verre de Chablis, j'ai une Audi, je suis habillé par Hugo Boss, et donc, les droits de douane qui me concernent, ce sont ceux qui sont sur l'Europe. En revanche, ma secrétaire, les droits de douane qui la concernent, ce sont ceux qui sont sur la Chine. Parce qu'elle est, et donc, effectivement, la façon dont, l'administration américaine traite ça est une façon qui est aussi liée aux élections. Donc je crois que les Américains se disaient de toute façon, ce dossier est un dossier qui est un dossier, une fois qu'ils ont lâché leur truc, démerdez-vous, parce que pour eux, c'est pas forcément l'enjeu essentiel, puisque c'est pas leurs électeurs qui sont concernés.
Gilbert, on sort gagnant ou perdant de ce taux de 3%?
Comme le diagnostic était fait par de nombreux économistes, était qu'on s'en sortait sans doute un petit peu perdant, et que je dirais dans le rapport de négociation de cet accord, l'Europe aurait pu tenir une position un petit peu plus dure. Là où je m'inscris tout à fait dans ce que vient de dire Jean-Marc, c'est qu'on vit dans une instabilité complète, au sens où on ne sait pas si les 15% de droits qui ont été imposés vont subsister.
Sont légaux ou pas, donc vont
subsister. Donc, des concessions ont été faites, mais dont on ne connaît pas la portée, la valeur, la durabilité, compte tenu du fait que l'instabilité juridique est totale aux États-Unis. Mais je dirais que, au-delà de ça et de la spécificité de cet accord, ce que montre aussi ce délai, c'est des délais procéduraux dont on peut évidemment que s'attrister concernant tout ce qui concerne l'Europe. C'est dit, c'est répété, ça a été affirmé de façon forte, enfin montré de façon forte dans le rapport, dans le récent rapport Draghi. On est dans un continent, l'Europe c'est 27 États, et des décisions au niveau européen prennent des délais procéduraux sont d'une complexité énorme. Je crois que ça illustre aussi cette chose.
C'était aussi une mesure de rétorsion de la part des Européens contre les États-Unis. Le Parlement européen a refusé de signer cet accord il y a quelques mois parce que les États-Unis s'étaient engagés à ne pas toucher à la réglementation sur le numérique et que Donald Trump est venu attaquer l'Europe très directement.
On rentre dans les vrais sujets. Je crois que tout était vraiment bien dit et que c'est neutre et que peut-être que ça ne se passera pas, donc ce n'est pas très grave, mais qu'en plus, comme l'a dit Gilbert, on a perdu du temps et qu'on a du mal à décider des choses. Nous, chez Montpensier, on est à Arbevel, on est convaincus qu'il y a deux éléments qui sont clés pour l'Europe. Dans les deux grands combats du monde actuel, ce sont l'énergie et le numérique. Sur l'énergie, à part la France qui a heureusement, je ne sais pas s'il y a eu tout d'un coup une épiphanie et a compris qu'elle devait revenir au nucléaire. En Allemagne, visiblement, les rois mages sont pas venus, mais le prix de l'électricité est dément. Donc, sur l'énergie, ce qui se passe en ce moment montre que le combat de l'énergie va être clé. D'autant plus, et on arrive au deuxième sujet, que l'IA, c'est beaucoup de consommation électrique, beaucoup de consommation électrique.
Pour les data centers.
Et sur la technologie, et en particulier sur l'IA. C'était intéressant ce matin sur BFM Business quand vous expliquiez ce qui se passe à Malte où ChatGPT va équiper tous les Maltais. Alors évidemment, c'est plus facile de le faire à Malte qu'en France, mais enfin, on est dans un combat. C'est-à-dire que ce sera un accès, comme on a l'électricité, comme on a Internet, on aura son IA. Alors, est-ce que c'est la bonne? Est-ce qu'il faut prendre Chat? Est-ce qu'il faut prendre Claude? Il y a aussi un énorme commencement. Mais on est dans une nouvelle donne numérique où tout se passe là. Enfin, c'est centaines, même s'il y a une bulle, même si on peut toujours critiquer, dire que c'est exagéré, c'est centaines de milliards, c'est milliers de milliards qui sont en train d'être investis dans de nouvelles technologies avec une rapidité d'application tellement forte, c'est un changement de monde.
Oui.
Même le chemin de fer, qui était plus important
que les droits de douane, ce que vous nous dites.
Oui, c'est à la limite.
C'est pas là où
mais le numérique, je reprenais de Gilbert ce qu'il disait, le combat il va être sur le numérique parce que eux, les Américains, ils ont bien l'intention de qu'on laisse bien la porte ouverte sur le numérique. Et le combat, il est sur l'énergie et sur le numérique avec les Américains. Et certains complotistes pensent même que les Américains ont bien compris tout ça et que tout ce qu'ils ont fait, Venezuela, Iran d'un côté, c'est une volonté de peut-être même Groenland, etc. C'est de contrôler l'énergie mondiale de façon à assurer la solidité de l'art.
Il nous reste une minute, Jean-Marc Daniel. Mario Draghi a aussi dit à Aix-la-Chapelle la semaine dernière que les accords commerciaux consignés à l'international, c'était bien, c'était sympa, mais enfin, c'était facile. Et que c'est pas ça qui allait rapporter gros. Il a avancé le chiffre de 0,5 points de croissance en plus et que c'était les barrières intérieures au marché européen qu'il fallait lever d'abord en priorité.
Oui, agir sur les deux domaines n'est pas incompatible. Et je pense qu'effectivement, on a signé pas mal d'accords de libre-échange les 6 derniers mois, notamment avec l'Inde, l'Union européenne. Et donc, je pense que c'est vers ça qu'il faut s'orienter. C'est-à-dire, il faut aller chercher la croissance là où elle va être. Et la croissance, elle va être...
À Mumbai. Et les normes.
Et oui.
Le combat des normes, le combat des barrières internes de normes, c'est ce que racontait le patron de Mistral.
Oui.
Ces normes, ces fonctionnements différents à l'intérieur des 27, la lenteur, comme l'a dit Gilbert, tout ça, ce sont les vrais sujets. On a du travail à faire à l'intérieur avant de se focaliser sur le débat avec les Américains.
On a encore beaucoup de pain sur la planche et ça nous fera de très belles émissions comme celle d'aujourd'hui qui sera disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business, sur toutes les plateformes de diffusion.